Chapitre 5. Ma complète conversion. Aimer Jésus avec passion et le suivre. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir. En un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. En cette nuit lumineuse, qui éclaire les délices de la Sainte Trinité. Jésus, le tout petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en un torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat. Mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais pour ainsi dire une course de géant. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement. Ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite. Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. Ce fut le 25 décembre 86 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au Bissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter, comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, me retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montai alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh, Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier, et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers, et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse, comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire, « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âme. Je sentis en un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait dans la terre, sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite le répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. « J'ai soif !» Ces paroles, elles mirent en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je sentais moi-même dévorée par de les soifs des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs plus agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans la pénitence. Je voulais à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même dans une crainte d'être obligée d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline. mais elle me fit de si tendre et si pressante question que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que les désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croyais même, s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. La prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal, la croix. Je l'ouvre avec empressement, et que vois-je ? Mes larmes me trahirent mon émotion et je fus obligée de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix qui lui présentait le prêtre et baise par trois fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour qu'un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était rentrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leur souillure. Les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par la rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer. Et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait, comme le plus délicieux breuvage de son amour. En peu de temps, le bon Dieu avait su me faire sortir du cercle étroit, où je me tournais, ne sachant comment en sortir. En voyant le chemin qu'il me fit parcourir, ma reconnaissance est grande, mais il faut bien que j'en convienne. Si le plus grand pas était fait, il me restait encore bien des choses à quitter. Dégagé de ses scrupules, de sa sensibilité excessive, mon esprit se développa. J'avais toujours aimé le grand, le beau, mais à cette époque, je fus prise d'un désir extrême de savoir. Ne me contentant pas des leçons et des devoirs que me donnait ma maîtresse, je m'appliquai seule à des études spéciales d'histoire et de sciences. Les autres études me laissaient indifférente, mais cette partie attirait toute mon attention. Aussi, un peu de moi, j'acquis plus de connaissances que pendant mes années d'études. Ah, cela n'était bien que le vanité et affliction d'esprit. Le chapitre de l'imitation, où il est parlé de science, me revenait souvent à la pensée, mais je trouvais le moyen de continuer quand même, me disant qu'étant en âge d'étudier, il n'y avait pas de mal à le faire. Je ne crois pas avoir offensé le bon Dieu, bien que je reconnaisse avoir passé là un temps inutile. Car je n'y employais qu'un certain nombre d'heures que je ne voulais pas dépasser afin de mortifier mon désir trop vif de savoir. J'étais à l'âge le plus dangereux pour les jeunes filles, mais le bon Dieu a fait pour moi ce que rapporte Ézéchiel dans ses prophéties. Passant auprès de moi, Jésus a vu que le temps était venu pour moi d'être aimé. Il a fait alliance avec moi, et je suis devenue sienne. Il a étendu sur moi son manteau, il m'a lavé dans les parfums précieux, m'a revêtu de robes brodées, me donnant des colliers et des parures sans prix. Il m'a nourri de la plus pure farine, de miel et d'huile en abondance. Alors je suis devenue belle à ses yeux, et il a fait de moi une puissante reine. Oui, Jésus a fait tout cela pour moi. Je pourrais reprendre chaque mot que je viens d'écrire et prouver qu'il s'est réalisé en ma faveur. Mais les grâces que j'ai rapportées plus haut en sont une preuve suffisante. Je vais seulement parler de la nourriture qu'il m'a prodiguée en abondance. Depuis longtemps, je me nourrissais de la pure farine, contenue dans l'imitation. C'était le seul livre qui me fit du bien, car je n'avais pas encore trouvé les trésors cachés dans l'Évangile. Je savais par cœur presque tous les chapitres de ma chère imitation. Ce petit livre ne me quittait jamais. En été, je le portais dans ma poche, en hiver, dans mon manchon. Aussi était-il devenu traditionnel, Chez ma tante, on s'en amusait beaucoup et l'ouvrant au hasard me faisait réciter le chapitre qui se trouvait devant les yeux. À 14 ans, avec mon désir de science, le bon Dieu trouva qu'il était nécessaire de joindre à la pure farine du miel et de l'huile en abondance. Ce miel et cette huile, il me les fit trouver dans les conférences de Monsieur l'abbé Armingeon sur la fin du monde présent et les mystères de la vie future. Ce livre avait été prêté à papa par mes chers carmélites. Aussi, contrairement à mon habitude, car je ne lisais pas les livres de papa, je me demandais à le lire. Cette lecture fut encore une des plus grandes grâces de ma vie. Je la fis à la fenêtre de ma chambre d'études et l'impression que j'en ressens est trop intime et trop douce pour que je puisse la rendre. Toutes les grandes vérités de la religion, les mystères de l'éternité, plongeaient dans mon âme, dans un bonheur qui n'était pas de la terre. Je pressentais déjà ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment, non pas avec l'œil de l'homme, mais avec celui du cœur. Et voyant que les récompenses éternelles n'avaient nulle proportion avec les légers sacrifices de la vie, je voulais aimer Jésus avec passion, lui donner 1000 marques d'amour pendant que je le pouvais encore. Je copiais plusieurs pages sur le parfait amour et sur la réception que le bon Dieu doit faire à ses élus, au moment où lui-même deviendra leur plus grande et éternelle récompense. Je redisais sans cesse les paroles d'amour qui avaient embrasé mon cœur. Céline était devenue la confidence intime de mes pensées. Depuis Noël, nous pouvions nous comprendre, la distance d'âge n'existait plus, puisque j'étais devenue grande en taille et surtout en grâce. Avant cette époque, je me plaignais souvent de ne point savoir les secrets de Céline. Elle me disait que j'étais trop petite, qu'il me faudrait grandir de la hauteur d'un tabouret, afin qu'elle puisse avoir confiance en moi. J'aimais à monter sur ce précieux tabouret lorsque j'étais à côté d'elle, et je lui disais de me parler intimement. Mais mon industrie était inutile. Une distance nous séparait encore. Jésus, qui voulait nous faire avancer ensemble, forma dans nos cœurs des liens plus forts que ceux du sang. Il nous fit devenir sœurs d'âme. En nous se réalisèrent les paroles du cantique de Saint Jean de la Croix. Ballant à l'époux, l'épouse s'écrie. En suivant aux traces, les jeunes filles parcourent légèrement le chemin. L'attouchement de l'étincelle, le vin épicé leur font produire des aspirations divinement embaumées. Oui, c'était bien légèrement que nous suivions les traces de Jésus, les étincelles d'amour qui se mettent à pleine main dans nos âmes. Le vin délicieux et fort qu'il nous donnait à boire faisait disparaître à nos yeux les choses passagères et de nos lèvres sortaient des aspirations d'amour inspirées par lui. Quelles étaient douces les conversations que nous avions chaque soir dans le belvédère. Le regard plongé dans le lointain, nous considérions la blanche lune s'élevant doucement derrière les grands arbres, les reflets argentés qu'elle répandait sur la nature endormie, les brillantes étoiles scintillantes dans l'azur profond, le souffle léger de la brise du soir faisant flotter les nuages neigeux. Tout élevait nos âmes vers le ciel, le beau ciel dont nous contemplons encore, que l'envers limpide. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que l'épanchement de nos âmes ressemblait à celui de Sainte Monique avec son fils. Lorsqu'au port d'Ostie, une heure restait perdue dans l'extase à la vue des merveilles du Créateur. Il me semble que nous recevions des grâces d'un ordre aussi élevé que celle accordée au grand saint. Comme le dit l'imitation, le bon Dieu se communique parfois au milieu d'une vive splendeur, ou bien, doucement voilée, sous les ombres et les figures. C'était bien de cette manière qu'il daignait se manifester à nos âmes, mais il était transparent et léger. Le voile qui dérobait Jésus à nos regards. Le doute n'était pas possible, déjà la foi et l'espérance n'étaient plus nécessaires. L'amour nous faisait trouver sur la terre celui que nous cherchions. L'ayant trouvé seul, il nous avait donné son baiser, afin qu'à l'avenir, personne ne puisse nous mépriser. Les grâces aussi grandes ne devaient pas rester sans fruits. Aussi furent-ils abondants. La pratique de la vertu nous devint douce et naturelle. Au commencement, mon visage trahissait souvent le combat. Mais peu à peu, cette impression disparut et le renoncement devint facile, même au premier instant. Jésus l'a dit, « À celui qui possède, on en aura encore, et il sera dans l'abondance. » Pour une grâce fidèlement reçue, il m'en accordait une multitude d'autres. Il se donnait lui-même à moi dans sa sainte communion plus souvent que je n'aurais osé l'espérer. J'avais pris pour règle de conduite de faire sans manquer les communions que mon confesseur me donnerait, mais de les laisser en régler le nombre sans jamais lui en demander. Je n'avais point à cette époque l'audace que je possède maintenant. Sans cela, j'aurais agi autrement, car je suis bien sûr qu'une âme droite doit dire à son confesseur l'attrait qu'elle sent à recevoir son Dieu. Ce n'est pas pour rester dans le ciboire d'or qu'il descend chaque jour du ciel. afin de trouver un autre ciel qui lui est infiniment plus cher que le petit, que le premier. Le ciel de notre âme fait à son image le temple vivant de l'adorable Trinité. Jésus, qui voyait mon désir et la droiture de mon cœur, permit que pendant les mois de mai, mon confesseur me dit de faire la Sainte Communion 4 fois par semaine. Et ce beau mois passé, il en a ajouté une 5e, à chaque fois qu'il se trouverait une fête. De bien douces larmes coulèrent de mes yeux, en sortant du confessionnal, il me semblait que c'était Jésus lui-même qui voulait se donner à moi, car je n'étais pas que très peu de temps en temps à confesse. Jamais je ne disais un mot de mes sentiments intérieurs. La voie par laquelle je marchais était si droite, si lumineuse, qu'il ne me fallait pas d'autre guide que Jésus. Je comparais les directeurs à des miroirs fidèles qui reflétaient Jésus dans les âmes, et je disais que pour moi, le bon Dieu ne se servait pas d'intermédiaire, mais agissait directement. Lorsqu'un jardinier entoure de soin un fruit qu'il veut faire mûrir avant la saison, ce n'est jamais pour le laisser suspendu à l'arbre, mais afin de mieux le présenter sur une table brillamment servie. C'était dans une intention semblable que Jésus prodiguait ses grâces à sa petite fleur, fleurette. Lui qui se fit au jour de sa vie immortelle dans un transport de joie. « Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et que vous les avez révélées aux plus petits. Vous les faire éclater en moi sa miséricorde. Parce que j'étais petite et faible, il s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute aurait-il été étonné de voir un enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne peut découvrir. Parce que pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Comme le dit Saint Jean de la Croix en son cantique, je n'avais ni guide ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur. Cette lumière me guidait plus sûrement que celle du midi, au lieu où m'attendait celui qui me connaissait parfaitement. Ce lieu, c'était le Carmel. Avant de me reposer à l'ombre de celui que je désirais, je devais passer des épreuves, mais l'appel divin était si pressant qu'il m'eût fallu traverser les flammes. J'aurais fait pour être fidèle à Jésus, pour m'encourager dans ma vocation. Je ne trouvais qu'une seule âme, ce fut celle de ma mère chérie. Mon cœur trouva dans le sein un écho fidèle, et sans elle je ne serais sans doute pas arrivée au rivage béni qu'il avait reçu depuis 5 ans, sur son sol imprégné de la rosée céleste. Oui, depuis 5 ans j'étais éloignée de vous, ma mère chérie, je croyais vous avoir perdue. Mais au moment de l'épreuve, c'est votre main qui m'indiqua la route qu'il me fallait suivre. J'avais besoin de ce soulagement, car mes parloirs au Carmel étaient devenus de plus en plus pénibles. Je ne pouvais parler de mon désir d'entrer sans me sentir repoussée. Marie, trouvant que j'étais trop jeune, faisait tout son possible pour empêcher mon entrée. Vous-même, ma mère, afin de m'éprouver, essayez quelquefois de ralentir mon ardeur. Enfin, si je n'avais pas eu vraiment la vocation, je me serais arrêtée dès le début, car j'ai rencontré des obstacles aussitôt que je commençais à répondre à l'appel de Jésus. Je ne voulus pas dire à Céline mon désir d'entrer si jeune au Carmel, et cela me fit souffrir davantage car il m'était bien difficile de lui cacher quelque chose. Cette souffrance ne dura pas longtemps. Bientôt ma petite sœur chérie apprit ma détermination, et loin d'essayer de me détourner, elle accepta avec un courage admirable le sacrifice que le bon Dieu lui demandait. Pour comprendre combien il lui fut grand, il faudrait savoir à quel point nous étions unis. C'est pour dire ainsi, la même âme qui nous faisait vivre. Depuis peu de mois, nous jouissions ensemble de la vie, la plus douce que les jeunes filles puissent rêver. Tout autour de nous répondait à nos goûts. La liberté la plus grande nous était donnée. Enfin, je disais que notre vie était sur la terre, l'idéal du bonheur. À peine avions-nous eu le temps de goûter cet idéal du bonheur, qu'il fallait s'en détourner librement. Et ma Céline chérie ne se révolta pas un instant. Ce n'était pas elle cependant que Jésus appelait la première. Aussi aurait-elle pu se plaindre. Ayant la même vocation que moi, c'était à elle de partir. Mais comme au temps des martyrs, ceux qui restent dans la prison donnaient joyeusement le baiser de paix à leurs frères, partant les premiers pour combattre dans l'arène et se consoler dans la pensée que peut-être ils étaient réservés pour des combats plus grands encore. Ainsi, Céline laissa-t-elle sa terre s'éloigner et resta seule pour le glorieux et sanglant combat auquel Jésus l'a destinée comme la privilégiée de son amour. Céline devint donc la confidente de mes luttes et de mes souffrances. Elle y prit la même part que s'il se fût agi de sa propre vocation. De son côté, je n'avais pas à craindre l'opposition, mais je savais bien quel moyen prendre pour l'annoncer à papa. Comment lui parler de quitter sa reine, lui qui venait de sacrifier ses 3 années, à que de lutte intime n'ai-je pas soufferte, avant de me sentir le courage de lui parler. Cependant, il fallait me décider, j'allais avoir 14 ans et demi. 6 mois seulement me séparaient encore de la belle nuit de Noël où j'avais résolu d'entrer. Alors même où l'année précédente j'avais reçu ma grâce, pour faire ma grande confidence, je choisis le jour de la Pentecôte. Toute la journée, je suppliais les saints apôtres de prier pour moi, de m'inspirer les paroles que j'allais avoir à dire. N'était-ce pas eux, en effet, qui devaient aider l'enfant timide que Dieu destinait à devenir l'apôtre des apôtres pour la prière et le sacrifice? Ce ne fut que l'après-midi, en revenant des vêpres, que je trouvai l'occasion de parler à mon petit père chéri. Il était allé s'asseoir au bord de la citerne, et là, les mains jointes, il contemplait les merveilles de la nature, le soleil dont les feux avaient perdu leur ardeur, doré le sommet des grands arbres, où les petits oiseaux chantaient joyeusement leur prière du soir. La belle figure de papa avait une expression céleste. Je sentais que la paix inondait son cœur. Sans dire un seul mot, j'allais m'asseoir à ses côtés, les yeux déjà mouillés de larmes. Il me regarda avec tendresse et prenant ma tête, il l'appuya sur son cœur, me disant « Qu'as-tu, ma petite reine? Confie-moi cela. » Puis se levant comme pour dissimuler sa propre émotion, il marcha lentement, tenant toujours ma tête sur son cœur. À travers mes larmes, je lui confiais mon désir d'entrer au Carmel. Alors, ses larmes versant mes lits au miel. Mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune pour prendre une détermination aussi grave. Mais je défendis si bien ma cause qu'avec la nature simple et droite de papa, il fut bientôt convaincu que mon désir était celui de Dieu lui-même. Et dans sa foi profonde, il s'écria que le bon Dieu lui faisait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Nous continuâmes longtemps notre promenade, mon cœur soulagé par la bonté avec laquelle mon incomparable père avait accueilli ses confidences. Il s'est penché doucement dans le sien. Papa semblait jouir de cette joie, tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint, et je voudrais me rappeler ses paroles pour les écrire ici. Mais je n'en ai conservé qu'un souvenir trop embaumé pour qu'il puisse se traduire. Ce dont je me souviens parfaitement, ce fut de l'action symbolique que mon roi chéri accomplit sans le savoir. S'approchant d'un mur peu élevé, il me montra de petites fleurs blanches, semblables à des lys en miniature. Les prenant une de ses fleurs, il me la donna, expliquant avec quelle soie le beau Dieu l'avait fait naître et l'avait conservé jusqu'à ce jour. En l'entendant parler, je croyais écouter mon histoire tant il y avait de ressemblances entre ce que Jésus avait fait pour la petite fleur et la petite Thérèse. Je reçus cette fleurette comme une relique et je vis qu'en voulant l'accueillir, papa avait enlevé toutes ses racines sans les baiser. Elle semblait destinée à vivre encore dans une autre terre plus fertile que la mousse tendre où s'étaient écoulés ses premiers matins. C'était bien cette même action que papa venait de faire pour moi, quelques instants plus tôt, en me permettant de gravir la montagne du Carmel et de quitter la douce vallée, témoin de mes premiers pas dans la vie. Je plaçais ma petite fleur blanche dans mon imitation, au chapitre intitulé « Qu'il faut aimer Jésus par-dessus toutes choses ». C'est là qu'elle est encore, seulement la tige s'est brisée tout près de la racine, et le bon Dieu semble me dire par là qu'il posera bientôt les liens de sa petite fleur et ne la laissera pas se faner sur la terre. Après avoir obtenu le consentement de papa, je croyais pouvoir m'envoler sans crainte au Carmel, mais de bien douloureuses épreuves devaient encore éprouver ma vocation. Ce ne fut qu'en tremblant que je confiais à mon oncle la résolution que j'avais prise. Il me prodigua toutes les marques de tendresse possibles. Cependant, il ne me donna pas la permission de partir. Au contraire, il me défendit de lui parler de ma vocation avant l'âge de 17 ans. C'était contraire à la prudence humaine, disait-il, de faire entrer au Carmel une enfant de 15 ans. Cette vie de carmélite étant aux yeux du monde une vie de philosophe, ce serait faire grand tort à la religion de laisser un enfant sans l'expérience l'embrasser. Tout le monde en parlerait, etc. Il dirait que pour le décider à me laisser partir, il faudrait un miracle. Je viens que pour tous les raisonnements seraient inutiles. Ainsi je me retirai, le cœur plongé dans l'amertume la plus profonde. Ma seule consolation était la prière. Je suppliais Jésus de me faire le miracle demandé, parce qu'à ce prix seulement, je pourrais répondre à son appel. Un temps assez long se passa avant que j'ose parler de nouveau à mon oncle. Cela me coûtait extrêmement d'aller chez lui. De son côté, il paraissait ne plus penser à ma vocation. mais j'ai su plus tard que ma grande tristesse l'influença beaucoup en ma faveur. Avant de faire luire sur mon âme un rayon d'espérance, le bon Dieu voulut m'envoyer un martyr bien heureux qui dura 3 jours. Oh, jamais je n'ai si bien compris que pendant cette épreuve, la douleur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, cherchant le divin enfant Jésus. J'étais dans un triste désert, ou plutôt mon âme était semblable au fragile esquif livré sans pilote, à la merci des flots orageux. Je le sais, Jésus était là, dormant sous ma nacelle. Mais la nuit était si noire qu'il m'était impossible de le voir. Rien ne m'éclairait, pas même un éclair n'avait sillonné les ombres nuages. Sans doute, c'est une bien triste lueur que celle des éclairs, mais au moins, si l'orage avait éclairé ouvertement, j'aurais pu apercevoir un instant Jésus. C'était la nuit profonde de l'âme. Comme Jésus au jardin de l'agonie, je me sentais seule, ne trouvant de consolation ni sur la terre, ni du côté des cieux. Le bon Dieu paraissait m'avoir délaissé. La nature semblait prendre part à ma tristesse amère. Pendant ces 3 jours, le soleil ne fit pas luire un seul de ses rayons, et la pluie tomba par torrents. J'ai remarqué que dans toutes ces circonstances graves de ma vie, la nature était l'image de mon âme. Les jours de larmes, le ciel pleurait avec moi. Les jours de joie, le soleil envoyait en profusion ses gais rayons, et l'azur n'était obscurci d'aucun nuage. Enfin, le 4e jour, qui se trouvait être un samedi, jour consacré à la douce reine des cieux, j'allais voir mon oncle. Quelle ne fut pas ma surprise en le voyant me regarder et me faire entrer dans son cabinet, sans que je lui en eusse témoigné le désir. Il commença par me faire le doux reproche de ce que j'apparaissais avoir peur de lui, et puis il me dit qu'il n'était pas nécessaire de demander un miracle, qu'il avait seulement prié le bon Dieu de lui donner une simple inclination de cœur, et qu'il était exaucé. Ah, je ne fus pas tentée d'implorer ce miracle, car pour moi le miracle était accordé, mon oncle n'était plus le même. Sans faire aucune allusion à la prudence humaine, il me dit que j'étais une petite fleur que le bon Dieu voulait cueillir et qu'il ne s'y opposerait plus. Cette réponse définitive était vraiment digne de lui. Pour la 3e fois, ce chrétien d'un autre âge permettait qu'une des filles adoptives de son cœur alla s'ensevelir loin du monde. Ma tante aussi fut admirable de tendresse et de prudence. Je ne me souviens pas que pendant mon épreuve, elle m'ait dit un mot qui pût l'augmenter. Je voyais qu'elle avait grand pitié de sa pauvre petite Thérèse. Aussi, lorsque j'eus obtenu le consentement de mon cher oncle, elle me donna le sien, mais non sans m'éprouver de 1000 manières que mon départ lui causerait du chagrin. Hélas, nos chers parents étaient loin de s'attendre, alors qu'il faudrait renouveler 2 fois encore le même sacrifice. Mais en tendant la main pour demander toujours le bon Dieu, ne la présenta pas vide. Ses amis les plus chers purent y puiser abondamment la force et le courage qui leur étaient si nécessaires. Mais mon cœur m'emporte bien loin de mon sujet. J'y retourne presque à regret. Après la réponse de mon oncle, vous comprenez, ma mère, avec quelle allégresse j'aurais pris le chemin des buissonnets sous le beau ciel, dont les nuages étaient complètement dissipés. Dans mon âme, aussi la nuit avait cessé. Jésus, en se réveillant, m'avait rendu la joie. Le bruit des vagues s'était apaisé. Au lieu du vent de l'épreuve, une brise légère enflait ma voile, et je croyais arriver bientôt sur le rivage béni que j'apercevais tout près de moi. Il était en effet bien près de ma nacelle, mais plus d'un grand nuage. Il devait encore se lever, lui dérobant la vue de son phare lumineux. Lui devait craindre de s'éloigner, sans retour de la plage si ardemment désirée. Peu de jours après avoir obtenu le consentement de mon oncle, j'allais vous voir, ma mère chérie, et je vous dis ma joie de ce que toutes mes épreuves étaient passées, et quelle ne fut pas ma surprise et mon chagrin en vous entendant me dire que monsieur le supérieur ne consentait pas à mon entrée avant l'âge de 21 ans. Personne n'avait pensé à cette opposition, la plus invincible de toutes. Cependant, sans perdre courage, j'allais moi-même avec papa et Céline chez notre père, afin d'essayer de le toucher en lui montrant que j'avais bien la vocation du Carmel. Il nous reçut très froidement. Mon incomparable petit père eut beau joindre ses instances aux miennes, rien ne put changer sa disposition. Il me dit qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, que je pouvais mener depuis le Carmélite à la maison, que si je ne prenais pas la discipline, tout ne serait pas perdu. Etc. Enfin, il finit par ajouter qu'il n'était pas le délégué de Monseigneur et que, s'il voulait me permettre d'entrer en Carmel, lui n'aurait plus rien à rien dire. Je sortis tout en larmes du presbytère. Heureusement, j'étais cachée par mon parapluie, car la pluie tombait par torrent. Papa ne savait comment me consoler, et il me promit de me conduire à Bayeux aussitôt que j'en témoignerais le désir, car j'étais résolue d'arriver à mes fins, Je dis même que j'irai jusqu'au Saint-Père si Monseigneur ne voulait pas me permettre d'aller au Carmel à 15 ans. Bien des événements se passèrent avant mon voyage à Bayeux. À l'extérieur, ma vie paraissait la même. J'étudiais, je prenais des leçons de dessin avec Céline et mon habile maîtresse. Trouvait en moi beaucoup de disposition à son art. Surtout, je grandissais dans l'amour du bon Dieu. Je sentais dans mon cœur des élans inconnus jusqu'alors. Parfois, j'avais de véritables transports d'amour. Un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais recevoir un enfer, un seul acte d'amour. Alors je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier puisqu'il ne désire que notre bonheur, mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire mille folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel n'excitait mon envie, mais alors mon ciel à moi n'était autre que l'amour, et je sentais comme saint Paul que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravi. Avant de quitter le monde, le bon Dieu me donna la consolation de contempler et de prier les âmes d'enfants. Étant la plus petite de la famille, je n'avais jamais eu ce bonheur. Voici les tristes circonstances qui me le procurèrent. Une pauvre femme, parente de notre bonne, me vint à la fleur de l'âge, laissant trois enfants tout petits. Pendant sa maladie, nous prîmes à la maison les deux petites filles, dont l'aînée n'avait pas 6 ans. Je m'en occupais toute la journée, c'était un grand plaisir pour moi de voir avec quelle candeur elles croyaient tout ce que je leur disais. Il faut que le saint baptême dépose dans les âmes un germe bien profond, des vertus théologales, puisque dès l'enfance elles se montrent déjà, et que l'espérance des biens futurs suffisent pour faire accepter des sacrifices. Lorsque je voulais voir mes deux petites filles bien conciliantes, l'une pour l'autre, au lieu de me promettre des jouets et des bonbons à celle qui céderait à sa sœur, je leur parlais des récompenses éternelles que le petit Jésus donnerait dans le ciel aux petits-enfants sages. L'aînée, dont la raison commençait à se développer, me regardait avec des yeux brillants de joie, me faisait mille questions charmantes sur le petit Jésus et son beau ciel et me promettait avec enthousiasme de toujours céder à sa sœur et disait que jamais de sa vie, elle n'oublierait ce que lui avait dit la grande demoiselle, car c'est ainsi qu'elle m'appelait. En voyant de près ces âmes innocentes, j'ai compris quel malheur c'était de ne pas bien les former dès leur réveil. Alors qu'elles ressentent à une cire molle sur laquelle on peut déposer l'empreinte des vertus, mais aussi celle du mal, j'ai compris ce qu'a dit Jésus dans l'Évangile, qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits-enfants. Ah, que d'âme arriverait à la sainteté si elles étaient bien dirigées. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre, mais de même qu'il permet à un habile jardinier d'élever des plantes rares et délicates, et qu'il lui donne pour cela la science nécessaire, se réservant pour lui-même le soin de féconder, ainsi Jésus veut être aidé dans la divine culture des âmes. Qu'arriverait-il si un jardinier maladroit ne greffait pas bien ses arbustes? S'il ne savait pas reconnaître la nature de chacun et voulait faire éclore des roses sur un pêcher, il ferait mourir l'arbre, qui cependant était bon et capable de produire des fruits. C'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfance ce que le bon Dieu demande aux âmes, et seconder l'action de sa grâce, sans jamais la devancer, ni la ralentir. Comme les petits oiseaux apprennent à chanter, en écoutant leurs parents, de même les enfants apprennent à la science des vertus, le chant sublime de l'amour divin, près des âmes chargées de les transformer à la vie. Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir. J'avais aussi un petit linot auquel je prodiguais mes soins maternels et l'ayant adopté avant qu'il ait pu jouir du bonheur de sa liberté. Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter, mais entendant du matin au soir son compagnon, le serin, faire de joyeuses roulades, il voulut l'imiter. Cette entreprise était difficile pour un linot. Aussi sa douce voix était-elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique. C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit, mais ils furent enfin couronnés de succès, car son chant, tout en conservant une bien plus grande douceur, fut absolument le même que celui du serin. Oh ma mère chérie, c'est vous qui m'avez appris à chanter, c'est votre voix qui m'a charmée dès l'enfance et maintenant j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble. Je sais combien j'en suis encore loin, mais j'espère malgré ma faiblesse redire éternellement le même cantique que vous. Avant mon entrée au Carmel, je vis encore bien des expériences sur la vie et les misères du monde, mais ces détails m'entraîneraient trop loin. Je vais reprendre le récit de ma vocation. Le 31 octobre fut le jour fixé pour mon voyage à Bayeux. Je partis seule avec papa. le cœur rempli d'espérance, mais aussi bien ému par la pensée de me présenter à l'évêché. Pour la première fois de ma vie, je devais aller faire une visite sans être accompagnée de mes sœurs, et cette visite était à l'évêque. Moi qui n'avais jamais eu besoin de parler, que pour répondre aux questions que l'on menaçait, je devais expliquer moi-même le but de ma visite, développer les raisons qui me faisaient solliciter l'entrée du Carmel. En un mot, je devais monter ma solidité de ma vocation. Qu'il m'en a coûté de faire ce voyage, il fallait que le bon Dieu m'accorde une grâce toute spéciale pour que j'aie pu surmonter ma grande timidité. Il est aussi bien vrai que jamais l'amour ne trouve d'impossibilité parce qu'il se croit tout possible et tout permis. C'était vraiment le seul amour de Jésus qui pouvait me faire surmonter ces difficultés et celles qui suivirent, car elle se plut à me faire acheter ma vocation par bien de grandes épreuves. Aujourd'hui, que je jouis de la solitude du Carmel, me reposant à l'ombre de celui que j'ai si ardemment désiré, je trouve avoir acheté mon bonheur à bien peu de frais et je serais prête à supporter de bien plus grandes peines pour l'acquérir si je ne l'avais pas encore. Il pleuvait à verse quand nous arrêtâmes à veiller. Papa, qui ne voulait pas voir sa petite reine entrer à l'évêché avec sa belle toilette toute trempée, la fit monter dans un omnibus et conduire à la cathédrale. Là commençaient mes misères. Monseigneur et tout son clergé assistaient à un grand enterrement. L'église était remplie de dames en deuil et j'étais chargée, regardée de tout le monde, avec ma robe claire et mon chapeau blanc. J'aurais voulu sortir de l'église, mais il ne fallait pas y penser, à cause de la pluie. Et pour m'humilier encore davantage, le bon Dieu permit que papa, avec sa simplicité patriarcale, me fit monter jusqu'au haut de la cathédrale. Ne voulant pas lui faire de la peine, je m'exécutais de bonne grâce et procurais sa distraction aux bons habitants de Bayeux que j'aurais souhaité n'avoir jamais vus, jamais connus. Enfin, je pus respirer à mon aise dans une chapelle qui se trouvait derrière le maître-autel. Et j'y restais longtemps, priant avec ferveur en attendant que la pluie cessât et me permît de sortir. En redescendant, papa me fit admirer la beauté de l'édifice qui paraissait beaucoup plus grand étant désert. Mais une seule pensée m'occupait et je ne pouvais prendre plaisir à rien. Nous allâmes directement chez Monsieur Réveroni, Monseigneur Réveroni, qui était instruit de notre arrivée, ayant lui-même fixé le jour du voyage. Mais il était absent. Il nous fallut donc errer dans les rues, qui me parurent bien tristes. Enfin, nous revîmes près de l'évêché et papa me fit entrer dans un bel hôtel, où je ne vis pas l'honneur de la pile cuisinier. Ce pauvre père était une tendresse pour moi presque incroyable. Il me disait de ne pas me faire de chagrin, que bien sûr Monseigneur allait m'accorder ma demande. Après nous être reposés, nous retournâmes chez Monseigneur Réveroni. Un monsieur arriva en même temps, mais le grand vicaire lui demanda poliment d'attendre et nous fit entrer dans les premiers, dans son cabinet. Pauvre monsieur eut le temps de s'ennuyer car la visite fut longue. Monseigneur Réveroni se montra très aimable, mais je crois que le motif de notre voyage l'étonna beaucoup. Après m'avoir regardé en souriant et adressé quelques questions, il nous dit « Je vais vous présenter à Monseigneur. Voulez-vous voir la bonté de me suivre ?» Voyant des larmes perler dans mes yeux, il ajouta « Ah, je vois les diamants. Il ne faut pas les montrer à Monseigneur. » Il nous fit traverser plusieurs pièces très vastes, garnies de portraits d'évêques. En me voyant dans ces grands salons, je me faisais l'effet d'une pauvre petite fourmi et je me demandais ce que j'allais oser dire à Monseigneur. Il se promenait entre deux prêtres sur une galerie. Je vis Monseigneur Réveroni lui dire quelques mots et revenir avec lui. Nous l'attendions dans son cabinet, là. Trois énormes fauteuils étaient placés devant la cheminée où pétillait un feu ardent. En voyant entrer sa grandeur, papa se mit à genoux à côté de moi pour recevoir sa bénédiction. Puis Monseigneur fit placer papa dans un des fauteuils, se mit en face de lui, et Monseigneur Réveroni voulut faire prendre celui du milieu. Je refusais poliment, mais il insista, me disant de montrer si j'étais capable d'obéir. Aussitôt, je m'assis sans faire de réflexion et j'eus la confusion de le voir prendre une chaise pendant que j'étais enfoncée dans un fauteuil où quatre, comme moi, auraient été à l'aise. Plus à l'aise que moi, car j'étais loin d'y être. J'espérais que papa allait me parler, mais il me dit d'expliquer moi-même à Monseigneur le but de notre visite. Je le fis le plus éloquemment possible. Sa grandeur habituée à l'éloquence ne parut pas très touchée de mes raisons. Au lieu d'elle, un mot de Monseigneur le supérieur m'eût plus servi. Malheureusement, je n'en avais pas, et son opposition ne plaidait aucunement en ma faveur. Monseigneur me demanda s'il y avait longtemps que je désirais entrer au Carmel. « Oh oui, Monseigneur, bien longtemps. »« Voyons, reprit en riant Monseigneur Réveroni. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 15 ans que vous avez ce désir. »« C'est vrai, » repris-je en souriant aussi. « Mais il n'y a pas beaucoup d'années à retrancher. » car je désirais me faire religieuse dès le réveil de ma raison, et je désirais le Carmel aussitôt que je l'ai bien connu, parce que dans cet ordre, je trouvais que toutes les aspirations de mon âme seraient remplies. Je ne sais pas. Ma mère, ce sont tout à fait mes paroles. Je crois que c'était encore plus mal tourné. Mes enfants, c'est le sens. Seigneur, croyant être agréable à papa, essayait de me faire rester encore quelques années auprès de lui. Aussi ne fut-il pas peu surpris et édifié de le voir prendre mon parti, intercédant pour que j'obtienne la permission de m'envoler à 15 ans. Cependant, tout fut inutile. Ligament de se décider, un entretien avec le supérieur du Carmel était indispensable. Je ne pouvais rien entendre qui me fit plus de peine, car je connaissais l'opposition formelle de notre père. Aussi, sans tenir compte de la recommandation de Monseigneur et Véronique, je fis plus que de montrer des diamants à Monseigneur. Je lui en donnai. Je vis bien qu'il était touché. Me prenant par le cou, je l'appuyai. Il appuyait ma tête sur son épaule et me faisait des caresses comme jamais. Paraît-il, n'en avait-il reçu de lui. Il me dit que tout n'était pas perdu, qu'il était bien content que je fasse le voyage de Rome afin d'affermir ma vocation et qu'au lieu de pleurer, je devrais me réjouir. Il ajouta que la semaine suivante, devant aller à Lisieux, il parlerait de moi à Monseigneur le curé de Saint-Jacques, et que certainement je recevrais sa réponse en Italie. Je compris qu'il était inutile de faire de nouvelles instances. D'ailleurs, je n'avais plus rien à dire, ayant épuisé toutes les ressources de mon éloquence. Monseigneur nous reconduisit jusqu'au jardin. Papa l'amusa beaucoup en lui disant qu'afin de paraître plus âgé, je m'étais fait relever les cheveux. Ceci ne fut pas perdu car Monseigneur ne parle pas de sa petite fille, sans raconter l'histoire des cheveux. Monseigneur et Véronique voulut nous accompagner jusqu'au bout du jardin de l'évêché. Il dit à papa que jamais chose pareille ne s'était vue. Un père aussi empressé de donner son enfant au bon Dieu, que cet enfant le s'offrira elle-même. Papa lui demanda plusieurs explications sur le pèlerinage. Entre autres, comment il fallait s'habiller pour paraître devant le Saint-Père. Je le vois encore se tourner devant Monseigneur et Véronique en lui disant « Suis-je assez bien comme cela ?» Il avait aussi dit à Monseigneur que s'il ne permettait pas d'entrer au Carmel, je demanderais cette grâce au souverain pontife. Il était bien simple dans ses paroles et dans ses manières, mon roi chéri, mais il était si beau. Il avait une distinction toute naturelle qui lui plaire beaucoup à Monseigneur, habitué à se voir entouré de personnes connaissant toutes les règles de l'étiquette et des salons, mais non pas le roi de France et de Navarre en personne, avec sa petite reine. Quand je fus dans la rue, mes larmes recommencèrent à couler. Non pas tant à cause de mon chagrin, qu'en voyant mon petit père chéri qui venait de faire un voyage inutile. Lui qui se faisait une fête d'envoyer une dépêche au Carmel, annonçant l'heureuse réponse du Monseigneur, était obligé de revenir, sans en avoir aucune. Alors que j'avais de peine, il me semblait que mon avenir était brisé pour jamais. Plus j'approchais du terme, plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. Aussitôt, en arrivant à Lisieux, j'allais chercher de la consolation au Carmel, et je retrouvais près de vous, ma mère chérie. Oh non, jamais je n'oublierai tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Si je craignais de les profaner en me servant, je pourrais dire les paroles que Jésus adressait à ses apôtres, le soir de la Passion. C'est vous qui avez été toujours avec moi dans toutes mes épreuves. Ma bien-aimée Agnès de Jésus offrit aussi de bien douces consolations.